Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chères mamas, futures mamas ou pas mamas du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Virginie a démarré dans la maternité par une grossesse surprise, puis une fausse couche, puis une autre grossesse et une autre fausse couche, puis encore des fausses couches, et cela a duré des années. Elle se lance dans un parcours de PMA, mais après plusieurs tentatives, elle n'est toujours pas maman. Tout cela est éprouvant physiquement et moralement. Pendant 6 années, certains proches s'éloignent et Virginie décide de faire un break. On lui parle du don d'ovocytes, mais hors de question pour elle de mettre au monde un bébé qui ne serait pas génétiquement le sien. Alors, avec son mari, ils en discutent et décident de partir sur un parcours d'adoption. Le projet est enclenché jusqu'à ce qu'une amie de Virginie la convainque de tenter le don d'ovocytes à l'étranger avec le dernier embryon qui lui reste. Bonne écoute.
Hello Virginie.
Salut.
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas.
Avec plaisir.
Alors, toi, tu as 2 petites filles?
C'est ça, Rose et Jade.
Ouais, elles ont quel âge?
Elles ont 27 mois.
Alors, on va revenir avant que toi, tu deviennes mère. Quand tu étais plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité? Est-ce que tu as toujours voulu devenir mère? Est-ce que tu savais que tu deviendrais mère un jour ou c'était pas un sujet qui t'intéressait?
Alors oui, ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours voulu être une maman formidable pour mes enfants.
Ouais.
Et je savais que je serais maman un jour, oui. Mm. C'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur.
Ouais. Et alors, comment le sujet est arrivé au sein de ton couple?
Avec Clément, on s'est rencontrés en 2012. Mm. On s'est de suite aimés, en fait. Ça a été...
Un coup de foudre,
ouais. Il est arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin de tout ce qu'il représentait. Ça en est venu rapidement, la vie de couple, tous les deux. Et puis j'ai fait ma première fausse couche.
Ok.
On n'était pas du tout en essai. Je savais pas du tout que je serais sujette à ça par la suite. Hein.
C'était une grossesse surprise.
C'était une grossesse surprise, ouais. Et à ce moment-là, j'ai senti que j'avais envie d'un enfant, quoi, que c'était le moment.
Ouais.
Donc, on a commencé à en discuter. Bon, ça faisait peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'on était ensemble.
D'accord. Et comment tu l'as vécu, cette fausse couche?
Très mal.
Ouais.
Très mal parce que elle était quand même avancée. J'avais organisé un anniversaire surprise ce jour-là, donc le soir. Pour Clément, que j'ai dû honorer, hein, puisqu'il n'était pas au courant et que tout le monde était invité. Donc ça a été vraiment très très dur, très 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 dur.
Et alors, donc, vous discutez après cette fausse couche d'avoir un enfant, toi ça te donne cet élan de devenir mère. Comment ça se passe?
Ouais, je vois mon gynéco, je parle du désir d'avoir un enfant. Je commence à prendre des vitamines, toutes les bases de quand on veut devenir maman.
Ouais.
Et ça tarde. En fait, ça vient pas.
Ok.
Ça vient pas et ça paraît tellement loin maintenant que ça vient pas jusqu'au jour où ça vient. Et
ça vient pas pendant combien de temps?
Ça vient pas pendant plus d'un an, je dirais 1 an et demi, 2 ans peut-être.
D'accord.
Puisque je commence à consulter. Mon gynéco, pas un gynéco PMA, un gynéco normal. On commence à faire des petites analyses. Et là, je tombe enceinte et donc on va à notre première écho. On voit pas grand-chose. Il commence à y avoir une petite activité cardiaque. Et je sais pas, quelques jours après, je commence de nouveau à perdre du sang. Et donc, on passe, enfin, ça y est, on commence à connaître les montagnes russes, cette aventure qui va nous attendre pendant quelques années.
Ouais.
Et je refais une fausse couche. Donc là, on commence à avoir un peu plus mal, en fait.
Ouais. Parce que là, les docteurs te disent quoi ?
Là, rien. Parce que c'est la faute à pas de chance. C'est la nature qui fait la sélection. C'est voilà, tout ce qu'on entend quand on fait une fausse couche.
Ouais.
Et donc, ça en suit une troisième fausse couche quelques mois après. Puisque je tombais quand même enceinte naturellement.
Ok.
Là, je décide de voir une autre gynéco qui me prend pas forcément au sérieux, puisque je lui demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas faire de fausse couche, quoi. Et elle me répond que de toute façon, tant qu'on n'en fait pas plus de 3 ou 4, il n'y a pas à s'inquiéter.
Ah oui, d'accord. Comment tu vis ça, toi ?
Très, très difficilement. Ouais. Très difficilement, parce que c'est des choses qu'on n'arrive pas à entendre, en fait, quand on veut devenir maman. Et là, je commence un petit peu à me renfermer et à me dire que ben, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je le sens, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comment je vais faire si on ne veut pas m'aider, en fait.
Tu pouvais échanger avec d'autres femmes qui avaient fait des fausses couches à ce moment-là ou...
Alors, j'ai commencé, me semble-t-il, à ce moment-là, justement, sur... il me semble que c'était un blog que j'ai vu sur Internet où j'ai discuté avec une fille qui était dans mon cas. Elle s'appelait à l'époque Super Fivette,
ouais.
Lauriane. Je suis toujours en contact avec elle. Elle a des jumeaux aujourd'hui aussi.
Ok.
Et c'est elle qui m'a dirigée sur son Instagram parce qu'elle elle parlait beaucoup de tout ça et qui m'a aidée à trouver mon premier pseudo Instagram. C'était Fivette Arc-en-Ciel et c'est là que j'ai commencé en fait à partager sur Instagram et à connaître cette communauté, à discuter, à échanger. Ça m'a fait beaucoup de bien.
T'étais surprise de voir qu'il y avait autant de femmes qui étaient concernées ?
Ouais, parce que tant qu'on passe pas par là, on se rend pas compte que beaucoup, beaucoup le vivent et n'en parlent pas forcément. Il y en a beaucoup qui trouvent, enfin, qui classent ça comme un sujet tabou et c'est vraiment dommage parce qu'on souffre de notre côté et ça sert à rien, en fait. Donc oui, j'ai découvert quelque chose que j'ai adoré à ce moment-là.
Ouais. Beaucoup de soutien, d'échanges.
Soutien, d'échanges, de rire, de voilà, même si on pleurait, on arrivait à, on avait en fait, on savait ce qu'il fallait qu'on se dise l'une et l'autre, et pas les phrases maladroites et tout ce qu'on voulait plus entendre à côté en fait. On se renfermait un petit peu dans tout ça et à ce moment-là, c'était vraiment nécessaire.
Ouais. Donc là, il y a combien de laps de temps entre le moment où vous avez décidé de devenir parent et cette troisième fausse couche ?
En tout, ça a duré 6 ans.
D'accord.
Donc, je dirais, là, on en était peut-être à 2 ans et demi, 2 ans, 2 ans et demi.
Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe après cette troisième fausse couche ?
On commence... je commence avec mon premier gynéco. Je commence les stimulations ovariennes et les contrôles. Mais c'était pas un gynéco PMA, donc bon, c'était vraiment les petites bases de la stimulation. On fait les premières prises de sang et on voit que ça marche pas et il me dirige donc vers un spécialiste PMA.
D'accord.
Donc là, j'ai commencé les gros tests, les prises de sang, tout ce qui fait partie de la PMA en fait, les auscultations à chaque moment du cycle.
Ouais.
Et j'ai découvert un gynéco. Super, qui était là, qui était à l'écoute, qui était super gentil, super doux, et ça m'a un peu réconciliée. Et du coup, je suis partie en stimulation quelques mois avec lui. Je ne tombais pas enceinte, il me semble. En stimulation, je ne tombais pas enceinte.
Ok.
Et du coup, au vu de mes résultats, on a décidé de passer en staff directement pour des FIV, puisque pour eux, l'insémination artificielle n'avait pas grand intérêt puisque la stimulation ne marchait pas du tout.
Ok.
Voilà, donc on est passé, on a eu l'accord et on est passé en FIV. Première FIV, pas d'accroche. Première ponction, beaucoup d'ovocytes puisque à chaque stimulation, je faisais des hyperstimulations, donc j'avais beaucoup, beaucoup d'ovocytes.
Ok, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle.
C'est ça. Bon, oui et non, parce que les hyperstimulations, c'est pas très bon non plus. Donc, bon, beaucoup d'ovocytes ponctionnés, mais au moment du transfert, il restait plus beaucoup d'ovocytes à chaque fois. Il en restait deux, trois, pas de bonne qualité. Donc, on m'en transférait deux et ça marchait pas. Il n'y avait pas d'accroche, donc deux FIV ici à Perpignan où j'étais suivie, sans résultat. Ça, c'était vraiment très difficile parce qu'on se disait que bah, la FIV, ça marche. Hein, quand on commence, on se dit, ben voilà, c'est la solution, ça y est, ça va marcher.
Oui. Parce qu'en plus, toi, tu tombais enceinte, donc le plus dur, c'était pour toi que ça s'accroche, en fait.
C'est ça, ouais.
Et là, tu tombais pas du tout enceinte.
Non, non, non. Je tombais enceinte naturellement, en faisant des fausses couches, mais je tombais pas enceinte pendant les FIV. Donc, entre ces laps de temps, je suis tombée enceinte deux ou trois fois, je crois encore, naturellement, avec fausses couches, toujours fausses couches. On décide alors de partir sur Montpellier, de faire des examens plus poussés, d'être vu par plusieurs professionnels là-bas. Donc, plusieurs examens de nouveau, biopsie de l'endomètre, qui s'appelle le Matrice Lab. J'ai eu les résultats, donc j'avais mon endomètre qui était en sous-immunité.
Ok.
Et du coup, ça réagissait mal et ça s'accrochait pas. Voilà, donc déjà, on a trouvé ce problème-là. On m'a trouvé un problème de sang aussi. C'est un syndrome qui s'appelle le syndrome SAPL, le syndrome antiphospholipide. Donc du coup, en fait, c'était un petit peu comme si, quand tu as quelqu'un qui fait une greffe d'organes, c'est soit le corps l'accepte, soit il le rejette. Et moi, en fait, ça a rejeté toujours.
D'accord.
Donc ça faisait partie du problème. Et il fallait mettre en place, donc, du coup, des traitements pour que, comme quand on a une greffe d'organes, le corps ne rejette pas, en fait, ce corps étranger qui est à l'intérieur. Donc, on a mis en place tous ces traitements. Donc, du coup, moi, c'était de l'aspégique tous les jours pour fluidifier. C'était des piqûres de Lovenox et plein d'autres traitements pour que tout marche, en fait.
Ouais.
Donc, on commence, on demande... Là-bas, ils avaient possibilité de surveiller les embryons, en fait, au moment de l'évolution, en fait, au tout début, quand les cellules se développent. Et ils voient que, oui, effectivement, il y a un souci. Au bout de quelques jours, ça tient pas, en fait, ils meurent. Ils me font quand même une FIV, sans grand espoir, parce que les embryons étaient de mauvaise qualité. Donc, on en est à la troisième. Ponction plus FIV et aucun résultat.
Ouais.
Pas de grossesse. Donc pareil, là, on tombe de haut encore. On tombe de haut parce qu'on s'est dit, eh ben, ça y est, on a changé de centre. On a l'impression que, waouh, ils sont au top du top et il y a tout ce qu'il faut. Quoi.
Ouais.
J'ai les traitements, j'ai tout ce qui peut m'aider, en fait, et ça ne marche pas. Donc là, c'est... Ça commence à être très difficile, en tout cas pour moi, pour mon mari aussi, parce qu'à chaque fois, c'était un deuil à faire, en fait. C'était vraiment ça. Et là, ça commence à être très difficile.
Ouais. Là, vous êtes à combien de temps d'essai?
Je dirais on est à 5 ans.
Ouais.
5 ans, 4 ans et demi, 5 ans.
Et là, tu gardes espoir quand même qu'il se passe quelque chose? T'en es où psychologiquement?
Non, là, on me parle. Donc du coup, on prend rendez-vous de nouveau à Montpellier. Pour la quatrième FIV, puisqu'on a droit à quatre FIV en France, plus une supplémentaire si on demande, si on passe en commission, voir si on a le droit. Mais là, on arrive à la dernière et je sais pas trop. Je me dis, on va la tenter, mais.
Ouais, c'est une grande conviction.
Non, ouais, pour moi, c'est voué à l'échec. Et donc là, on voit. Une super gynéco aussi que j'ai beaucoup aimée et elle nous dit que pour elle c'est pas la peine qu'on la fasse en fait parce que j'ai moins de 2% de chances que ça marche. Donc elle nous parle du don d'ovocytes. Ce jour-là, elle nous parle du don d'ovocytes, elle nous dit que c'est peut-être ce qu'il me faut parce que mes embryons ne sont pas de bonne qualité et que pour elle c'est ce qui marchera.
Ouais.
Donc là je m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de ça. Pas du tout, puisqu'en commençant notre parcours, les premières fausses couches, on avait dit que ce soit adoption, don d'ovocytes, c'est hors de question. Voilà, on n'était pas du tout dans cet esprit-là. On ne le voyait pas pareil. Après, en PMA, on fait un chemin énorme. C'est dur et c'est beau à la fois. Et du coup, ce jour-là, je descends complètement. Et je décide de tout arrêter. je veux plus, en fait, je veux plus souffrir et je veux profiter un petit peu de la vie. On a perdu beaucoup d'amis dans ce laps de temps.
Ah oui?
Ouais, ouais, ouais. On a perdu beaucoup d'amis qui n'ont pas compris notre éloignement. On a été triste et en colère à la fois parce qu'on n'y pouvait rien en fait. On le contrôlait pas en fait. C'était pas contre eux. On avait juste besoin d'être l'un et l'autre et de surmonter ça tous les deux parce que quand on passe pas par là, on peut pas forcément comprendre et on n'avait pas besoin d'entendre.
Ça va venir. N'y pense pas trop.
Voilà. Ouais. Voilà. Ou c'est dans la tête ou voilà. Voilà. Exactement. Donc c'était compliqué.
En plus, vos amis devaient commencer à avoir des enfants aussi de leur côté. Ça devait pas être
ouais.
simple ça.
Ouais ouais. Donc c'était pas simple. J'étais heureuse. Hein. J'ai toujours été heureuse pour eux.
Ouais.
Mais c'était dur. Intérieurement, c'était dur. J'y pouvais rien. Je pouvais pas contrôler. Du coup, je me renfermais et voilà. Du coup, ça a fait beaucoup de tri.
Ouais.
Beaucoup de tri. On a été soutenus par nos familles. On a été très soutenus. D'autres plus, d'autres moins.
Ouais. Et t'étais suivie par une psy?
Alors oui, j'ai fait quelques séances. Déjà pour rentrer en PMA, pour passer en commission, il faut passer devant une psy. Donc on avait commencé à ce moment-là. J'ai pas trouvé grand intérêt en fait.
Ok.
Donc j'ai pas continué. Et moi, mon psy, c'était Instagram en fait. C'était toutes celles qui vivaient les choses comme moi et on se tirait vers le haut. Tout. Et voilà, c'était ça en fait. Mmh. J'avais pas besoin d'autre chose à ce moment-là.
Ouais.
Donc voilà, on a fait une pause. On est parti. Je pense que là, on était en. C'était 2019. Mois de novembre, j'ai parlé avec plusieurs filles Instagram qui avaient fait le don d'ovocytes en Espagne et en République tchèque.
Mmh.
Je suivais leur parcours, je suivais leur réussite. Elles avaient déjà eu des enfants grâce au don d'ovocytes et tout ça. Donc, pourquoi pas? Là, je me suis dit, bon, ben, on va en parler.
Qu'est-ce qui te gênait au début sur le don d'ovocytes?
Je me disais que j'allais pas être maman, en fait.
Ouais.
Je dis ça grossièrement, hein, mais. Je me disais que ce serait pas mes gènes, que mes enfants me ressembleraient pas, que bah qu'ils m'aimeraient pas, que enfin plein de choses qui me passaient par la tête et c'était un peu compliqué et mon mari à ce moment-là lui me disait que si on faisait un don d'ovocytes bah il préférait à la limite l'adoption pour pas que je lui comment dire, il se sentait supérieur à moi, en fait, étant donné que dans le don d'ovocytes, lui, ça aurait été ses gènes à lui et pas les miens.
Ouais.
Il avait peur que je le vive mal et il voulait pas ça, en fait.
Ouais.
Donc, bon, je lui dis, on va quand même se renseigner. Et j'avais beaucoup de retours sur la République tchèque et j'ai envoyé un mail. On a échangé. Et j'ai laissé tomber pendant plus d'un an, un an et demi.
Oui, parce que là, t'es obligée d'aller voir à l'étranger, parce que c'est pas autorisé en France.
Alors, c'est autorisé en France, sauf que tu es sur liste d'attente le temps qu'ils trouvent une donneuse. Ce qui est d'ailleurs très dommage parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de donneuses. On n'en parle pas beaucoup. Et du coup, il y a 5 ans d'attente, à peu près 5 ans d'attente. Et nous, ça faisait déjà une éternité pour nous et ouais. On ne voulait plus attendre, en fait. Donc, il faut savoir qu'en France, c'est gratuit. Et à l'étranger, c'est payant. Ils ont énormément de donneuses, ils ont une banque de donneuses énorme.
Mmh.
Là-bas, elles sont rémunérées, c'est souvent des étudiantes qui paient leurs études comme ça. Et donc, du moment où tu envoies ton mail, où tu échanges, tu envoies tout ce qu'ils ont besoin, en fait, sur toi, il y a un délai de 2 à 3 mois, je dirais, pour qu'ils trouvent une donneuse.
Oui, très rapide.
Très rapide, oui. Donc, elle m'informe que d'ici 2-3 mois, ça peut être possible. Et là, je lâche complètement, en fait. Je lui dis non, je peux pas. Je peux pas. Et on part sur une demande d'adoption.
Ok.
Voilà. Donc on se concentre pendant un an et demi sur ça.
C'était pour adopter en France, à l'étranger?
C'était pour adopter en France, ouais.
Ok.
Voilà. Donc on rencontre les professionnels, on rencontre les psys, on rencontre les assistantes sociales. On part en décembre fêter la nouvelle année en Laponie tous les deux.
Ah.
On se décide un mois avant, on va voir une agence de voyage, on dit, bah, écoutez, on a besoin de quelque chose qui nous fasse du bien, on veut partir tous les deux. Et là, elle nous dit, bah, écoutez, il y a 2 places qui se sont libérées pour la Laponie. Donc, on dit oui et on part en Laponie. Clément me demande en mariage là-bas et on revient requinqué et là, on commence du coup le dossier d'adoption.
Ok.
Donc, ça en est suivi tous les entretiens, on oublie la PMA. J'en suis à 4 ou 5 fausses couches déjà. Et dans ce laps de temps, je refais deux ou trois fausses couches encore.
Ok, naturel.
Naturel, ouais. Donc à chaque fois, c'est pareil, les montagnes russes. Ça y est, ça a marché. Et puis au fur et à mesure, on se dit, bon, mais écoute, ça a marché, mais on ne sait pas.
Ouais.
Donc première prise de sang, évolutive. Et puis après, ça dégringole et je sais ce qui va arriver. Et donc, c'est à chaque fois, c'est des coups durs, mais on se relève à chaque fois. Et je discute beaucoup avec Laetitia sur Instagram, qui a fait son don d'ovocytes à Zlín, en République tchèque. Et elle me dit un jour, puisque je partage en story les entretiens pour l'adoption et tout ça, elle me dit, mais pourquoi? Pourquoi? Elle me dit, parce qu'en fait, en France, quand il te reste une FIV, si tu pars à l'étranger, tu as droit à une petite part de remboursement par la Sécu pour ta dernière FIV.
Ok.
Donc elle me dit, mais pourquoi tu essayes pas? Pourquoi? Et à ce moment-là, je suis fermée et je peux pas repartir là-dedans. Je veux plus de douleur, je veux plus de fausse couche. Surtout quand t'as tout qui est réuni, en fait. Ils te sélectionnent les embryons, ils te donnent tout ce que tu dois prendre pour que ton corps le rejette pas. C'est encore plus dur, en fait, quand ça marche pas. Et à ce moment-là, j'y arrive pas. Et elle continue à insister. Et pendant la procédure d'adoption, je lui dis à Clément, c'était quoi? C'était en été, je crois. Je lui dis, allez, on tente. Le dossier d'adoption est en cours. On fera le deuil une fois pour toutes. Si ça marche pas, c'est terminé. On tire un trait, on ferme le livre et c'est terminé. Et je reprends contact avec Zlín en septembre. Je renvoie tout ce qu'il faut renvoyer et ils trouvent une donneuse. Donc, ils nous donnent rendez-vous pour novembre. Novembre 2020. Donc, le 5 novembre 2020, nous voilà à Zlín, en République tchèque, en plein Covid. Ça a été hyper compliqué à ce moment-là. Voilà. Ça a été hyper compliqué parce qu'on nous annulait tous les billets d'avion, en fait, à la file. On nous annulait tout et... ça a été une horreur à ce moment-là. Donc, on essaye tant bien que mal de trouver des billets. On nous met, puisque je partage beaucoup en story, j'ai des amis qui me mettent en contact avec des amis qui travaillent à Air France et compagnie. Donc là, j'arrive à avoir un monsieur qui est génial, qui arrive à m'avoir un billet d'avion au dernier moment, puisque c'est ce qu'il fallait faire pendant le Covid, en fait. Donc, on savait pas jusqu'au dernier moment si on allait décoller. Donc, on arrive à avoir un billet pour le 5 novembre, et le 5 novembre, on décolle. Et donc, du coup, nous voilà arrivés à Zlín, tout est fermé, tout, voilà.
Ah oui, ça devait être une ambiance particulière.
Ouais, c'était particulier, mais d'un autre côté, on avait besoin de ça. On avait besoin d'être enfermés tous les deux et l'hôtel est particulièrement accueillant. C'est un hôtel où il y a la clinique intégrée, en fait, à l'intérieur et il n'y a que des couples qui viennent comme nous pour les mêmes choses. Et on rencontre des Français, on rencontre un petit peu... d'autres personnes avec qui on discute toujours, qui ont des enfants, pour qui ça a marché à ce moment-là. Du coup, ils sont du même jour, en fait. Ils ont été créés le même jour. Et bon, on rencontre les biologistes, on fait tout ce qu'il y a à faire comme examen. On obtient 6 embryons de très bonne qualité, qu'on n'a jamais eu en France. Okay. Et vient le jour du transfert où on décide d'en transférer 2. C'est très particulier parce que je le fais, mais pour moi, en fait, dans ma tête, c'est je le fais pour clôturer le chapitre, en fait, et je me protège vachement, en fait. Je me dis que je sais que ça marchera pas et qu'il faut que je me résigne, en fait, à devenir une maman, à porter mon enfant, en fait. Donc, on retourne en France 2 jours après. 2 jours après le transfert, hein, parce que du coup, on est arrivé le 5, j'ai eu le transfert le 10 novembre. Donc, on revient en France, on passe quelques jours chez nos meilleurs amis à Toulouse et j'ai peur. Je suis angoissée, j'ai peur. J'ai vraiment détesté tous ces moments-là après transfert, en fait. C'était hyper, hyper long, tu te poses beaucoup de questions, tu t'examines les moindres symptômes. C'est très, très lourd à vivre, en fait. Et je sais pas, 6 jours après peut-être, donc vers le 16, je suis pas très bien, j'ai des nausées, j'angoisse et puis j'ai envie de savoir, en fait. Donc je pars acheter un test, c'est beaucoup trop tôt, hein. C'est beaucoup trop tôt, mais j'ai jamais su attendre. Donc je pars acheter un test sans le dire à Clément. Je fais pipi sur le test et là, ça a marché. C'est assez foncé d'ailleurs. Pour le peu de temps qui est passé entre le transfert et mon test urinaire, en fait. Mmh. Et je dis rien. Je dis rien à part quelques personnes qui étaient dans la confidence sur Instagram, toujours. Et j'attends le lendemain. Donc, j'en refais un le soir même. J'en refais un le soir pour voir si ça fonce et ça fonce. J'en refais un le lendemain. Le lendemain, encore plus foncé. Donc, je me dis, c'est ça y est. Donc là, je reprends un peu espoir et je me dis, va pas trop vite parce que tu sais comment ça finit à chaque fois et protège-toi. Donc je dis rien à Clément parce que je j'ai pas envie de le faire souffrir. Je préfère lui annoncer en fait que ça a pas marché plutôt que de le refaire passer par tout ça.
Ouais.
Et là, je me dis, bon, écoute, demain, prise de sang. Donc je vais faire la prise de sang le jour où je devais la faire en fait. Et là, taux positif, je dis rien. Je dis rien à Clément toujours. J'attends 2 jours, donc les 48 heures qu'il faut attendre pour voir si ça évolue très bien. Et je refais une prise de sang et là, le taux a évolué. Mais je me dis, c'est pas possible, les deux se sont accrochés. J'ai un taux énorme quoi.
Ah oui, là tu te dis que potentiellement tu peux en avoir 2.
Ouais, voilà. Ouais. Là, je réalise que... Ah ouais, on a mis 2 ovocytes, en fait. Enfin, on a mis 2 embryons. Donc, je commence à être un petit peu malade. Et là, quand j'ai le résultat de la deuxième prise de sang, il faut que je le dise à Clément, en fait. Et donc, je prépare une grande pancarte, mais énorme, où je suspends des sucettes dessus, les tests de grossesse dans des petites poches, et je marque « Bonjour papa, la prise de sang de maman était il y a 48 heures de autant de... » Et aujourd'hui, le score est énorme, on t'aime déjà, quelque chose comme ça, voilà. Donc quand il arrive, je mets la pancarte à l'envers. Et je lui dis retourne la pancarte. Donc il met un petit moment à lire tout, à comprendre, et il me regarde, il me dit c'est vrai. Je lui dis oui c'est vrai, mais bon, on est content, mais
avec un peu d'appréhension quand même.
Beaucoup ouais, beaucoup et donc là je prends rendez-vous chez le gynéco parce que je commence à être quand même bien malade, je vomis pas mal. Et puis, bon, comme je suis énormément suivie pour les fausses couches, il fallait que je prenne immédiatement rendez-vous. C'est mon premier gynéco PMA qui a accepté de me suivre et qui va prendre le relais et qui va me suivre tout le long. J'avais des échos toutes les 2 semaines. Et ben là, on regarde, elle voit, c'était sa remplaçante ce jour-là, elle voit une poche et on se regarde tous les deux, on n'en voit qu'une. Et là, elle bouge, elle dit « Ah, eh ben, il y en a une deuxième !» En fait, quand elle en a trouvé une, on était un peu déçus. On s'est dit « Bon, en fait, il n'y en a pas deux. » Et en appuyant, elle me dit « Bon, ben, il y en a une deuxième. » Ok. Mais à ce moment-là, il n'y a rien encore, il n'y a pas d'activité cardiaque, c'est juste la poche. Donc, revenez d'ici 10 jours. Là, ça a été les 10 jours les plus interminables. Mais j'étais rassurée parce que j'étais très malade.
Oui.
J'étais très malade, je vomissais beaucoup. Et voilà, et il y a eu la seconde écho où on a vu l'embryon, on a entendu le cœur, les cœurs, et on a mis en place un traitement pour les vomissements mais qui a duré 8 mois parce que j'ai vomi pendant 8 mois. Et voilà, ça a marché. Et entre-temps, en plus, on avait rendez-vous en commission pour l'adoption.
Eh oui.
Et je suis arrivée ce jour-là en commission, enceinte de 2 mois et demi. Et déjà un beau bidou. Et ils étaient tous émerveillés. Ça nous a beaucoup touchés. Donc en fait, on passe devant un jury. Hein, ils sont tous autour de nous, on discute et ils étaient tous très contents pour nous. Donc, on avait décidé de maintenir quand même notre demande pour si un jour on voudrait un troisième enfant. On ne voulait pas abandonner, en fait. On avait l'impression d'abandonner un enfant.
Mmh.
Et donc, du coup, on a eu l'agrément. Ils nous ont accordé l'agrément. Et voilà, on est resté en contact avec l'assistante sociale, avec la psy. L'assistante sociale vient même à la maison encore. Elle vient voir les filles.
Okay.
Et voilà, aujourd'hui, on a arrêté l'agrément parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas un abandon, mais que c'était une chance pour d'autres qui eux, n'avaient pas eu la chance qu'on a eue pour le don d'ovocytes et ne pouvaient pas du tout avoir d'enfants. Donc, on a stoppé l'agrément et on a laissé la place à quelqu'un d'autre.
Je voulais revenir sur le don d'ovocytes.
Ouais.
Comment vous sélectionnez la donneuse ? Est-ce qu'il y a une sélection ou comment ça se passe ?
Alors, on me demande quelques critères sur moi.
Ok.
Donc, ma taille, mon poids, mes yeux, mon groupe sanguin, toute la base, en fait. Et à ce moment-là, ils me demandent des photos aussi. Et à ce moment-là, ils sélectionnent dans leur base de données, en rentrant le poids, la taille, les yeux, le groupe sanguin, voilà, comme ça. Et ils t'envoient un jour, nous avons trouvé votre donneuse. Moi, elle faisait 1m69, je crois. Moi, j'en fais 1m67. Elle avait les yeux verts comme moi, brune, non fumeuse. J'avais demandé, parce que tu peux demander quelques trucs en plus. J'avais juste demandé qu'elle soit pas fumeuse. Et le poids, pareil, elle faisait, moi j'en faisais 54, elle en faisait 53, je crois. Donc c'était très similaire.
Okay. Non, et t'envoies la photo, non ?
Non, c'est très frustrant. C'est très frustrant. Non, c'est anonyme, c'est complètement anonyme. En fait, on a le droit à ces petits détails, mais c'est tout.
Ouais. Et alors, comment t'as cheminé entre tout ce que tu pensais sur le don d'ovocytes avant de prendre cette décision de finalement y aller ?
Alors, ça a cheminé en fait en voyant le parcours des autres.
Ouais.
En voyant les bébés évoluer et en étant hyper surprise de la ressemblance avec les mamans, en fait. Ouais. Parce qu'on parle pas de l'épigénétique et de tout ça, mais c'est magique en fait. Ça reboote un peu tout le corps, tous les gènes, tout. Moi mes filles, j'ai l'impression de me voir quand j'étais petite et c'est bluffant en fait. C'est vraiment magique à vivre. C'est en voyant les autres en partageant et en suivant le partage des autres que ça a fait le chemin. Ça s'est fait tout naturellement.
Ouais. Tu discutais du fait de savoir si elle se sentait pleinement mère.
Ouais, ouais. Et on me répondait à chaque fois, c'est inimaginable en fait.
Ouais.
Et moi, du moment où je suis tombée enceinte, le don d'ovocytes, j'avais déjà oublié quoi. Mmh. Je sentais, c'était en moi, c'était dans mon ventre, j'avais mon ventre qui grossissait, elles étaient là, je les sentais, c'était mon sang, c'était.
Ouais.
C'est indescriptible, c'est tout a été oublié en fait à ce moment-là.
Alors, comment s'est passée cette grossesse ? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as été pleinement apaisée, de te dire c'est bon, elles sont là, ou tu as eu peur tout au long de la grossesse ?
Bon, j'ai eu peur toute la grossesse.
Ouais.
Ouais, j'ai eu peur. En fait, avec Clément, on se regardait même pendant qu'on mangeait ou quand on allait se coucher. Il a mis un petit temps à mettre sa main sur mon ventre. Il le faisait, mais je sentais que c'était. Qu'il y avait de la peur.
Mmh.
Et tous les jours on se regardait et on se disait quand est-ce que ça va merder en fait,
ouais.
Pardon. Mais on se disait quand est-ce que ça va s'arrêter. Pour moi c'était évident, ça allait s'arrêter, j'allais faire une fausse couche et j'allais souffrir quoi. J'ai été stressée vraiment toute ma grossesse, j'ai eu des contractions à partir du quatrième mois. Donc, j'ai été pas mal alitée.
Ouais.
Et j'ai eu peur tout le long. Vraiment, toute ma grossesse, j'ai eu très peur. J'ai eu un ou deux mois où je me suis sentie pleinement sereine parce que je les sentais bouger.
Mmh. Ça y est, ouais, ça rassure, ça
y est. Ouais, voilà. Ça y est, elle bougeait. Puis en plus, elle bougeait tout le temps. C'était. J'ai eu un ou deux mois quand même où j'ai été. Épanouie quand même, je vais pas dire le contraire, ça, j'en ai quand même un petit peu profité. Mais c'est vrai que souvent on me disait, mais purée, t'es enceinte, sois heureuse quoi. Oui, mais j'ai peur.
Ouais.
Et ça, on le comprenait pas trop, mais j'avais peur. C'était hyper fragile pour moi.
Est-ce que t'avais fait un projet de naissance ?
Non, pas du tout. Non, non. Pas de projet de naissance, non. Je me suis même pas penchée là-dessus. Je t'avoue que je sais pas trop en quoi ça consiste exactement. Mais non, J'avais pas la tête à ça parce que c'était un jour après l'autre et que je voulais pas me projeter. Et du coup, non, j'ai pas fait.
Alors, comment s'est passé le jour J, la rencontre?
Alors, il y a eu quelques jours avant très difficiles parce que j'ai fait un début de pré-éclampsie. Donc, j'ai été hospitalisée, je dirais une bonne semaine et demie avant l'accouchement déjà. Donc, j'ai été hospitalisée plusieurs fois pendant la grossesse. Mais là, je savais que c'était quasiment la fin. Et j'ai été hospitalisée pour risque de pré-éclampsie. J'avais une tension assez haute et les urines n'étaient pas bonnes. Donc, j'ai été surveillée. Et là, je me sentais bien parce que je savais qu'à tout moment, si ça arrivait, je suis là, tout le monde est là autour de moi et ça va bien se passer. Mmh. Et donc, les jours passent, les urines sont de moins en moins bonnes. Et un matin, l'infirmière rentre et elle me voit toute gonflée, encore plus gonflée. Et vraiment, là, j'avais, on peut pas dire doublé de volume parce que j'étais pas mal déjà, mais j'avais vachement gonflé. Et là, elle me dit, je reviens. Ils reviennent à trois, ils me disent, écoutez, on vous déclenche aujourd'hui. Donc, j'appelle mon mari et je lui dis, ça y est, il faut que tu viennes parce que j'ai juste le temps de prendre une douche et on y va, on me déclenche en fait.
T'étais à combien de mois de grossesse là?
J'étais à 35 semaines plus 4. Donc ça équivaut à 7 mois et demi, 8 mois.
Ouais.
Je t'avoue que j'ai été un peu perdue avec ces semaines aménorrhées.
Comme toutes, je crois. Mais t'avais dépassé le stade de prématurité?
J'avais dépassé, ouais. Okay. J'avais eu des contractions très tôt, donc on m'avait fait tout ce qu'il fallait, les injections pour les poumons, la maturité, tout ça. Voilà. Donc là, j'avais dépassé et même si c'était pas non plus énorme, c'était bon.
Ouais.
Voilà. Donc il fallait déclencher et pour moi et pour les filles parce que la prééclampsie c'est dangereux.
Oui.
Je pouvais moi y rester et les filles, elles pouvaient en souffrir aussi. Donc me voilà douchée et j'attends donc du coup Clément qui arrive pas longtemps après. On habite quand même à 35 minutes de l'hôpital, donc bon, le temps qu'il arrive, mais il est arrivé très vite, il me semble. Il me semble qu'il est arrivé très vite ce jour-là. Donc voilà, on est en salle de travail. On est en salle de travail et on me pose le monito. J'étais pas du tout dilatée à ce moment-là, donc bon, on me déclenche avec un tampon. Et on me dit, ça peut prendre 24 heures, donc si vous voulez aller marcher, si vous voulez aller prendre l'air un petit peu, puisque moi, j'avais pas fait tout ça, j'étais alitée. Je dis, on va prendre l'air. Je dis, même si on va marcher devant l'hôpital, c'est pas grave, mais on va prendre l'air. Donc, il se passe 5 minutes, je me lève pour mettre mes chaussures et là, je sens des douleurs et des brûlures et je me dis, mais... 5 minutes après, donc je sonne et je demande, je dis est-ce que c'est normal que ça puisse travailler déjà? Et on me dit ça peut arriver, donc j'ai des contractions qui commencent à arriver et je fais une allergie.
Ah
voilà, je fais une allergie au tampon, au produit, donc je suis toute brûlée à l'intérieur, une horreur. Il est midi et je commence à vraiment souffrir. Mais ça a été une horreur, ça m'a vraiment brûlée, ça me brûle encore aujourd'hui, c'est horrible.
Ah oui?
Ouais. Et donc du coup, pour vérifier mon col à chaque fois, elles introduisent leurs doigts, et c'est hyper, hyper, hyper compliqué. Mmh. Et les contractions ne descendent pas, en fait. J'ai des contractions qui s'arrêtent pas. Elles sont tout le temps en haut, en haut, en haut, en haut, et j'ai même pas le temps de respirer. Donc on me met sous morphine. Et on continue à suivre le monitoring. Et entre tout ça, la perte des os, je me suis levée, j'ai tout arraché, j'ai couru dans la pièce, tellement que ça me brûlait. Il s'est passé entre ça midi, minuit, dilaté à deux.
Wow. Avec les brûlures.
Voilà, avec les brûlures et les contractions, puisque j'ai eu la péridurale qu'à 10h du soir, je crois. Voilà. Je crois, mais franchement, c'est très très vague. Les heures, je sais plus du tout.
Vaut mieux en même temps.
Ouais. Et pour moi, je vais mourir en fait. Je dis à Clément, je m'inquiète en fait pour mes filles. Je dis à Clément, qu'est-ce qui va se passer si je suis plus là et si et là. Bon, je commence à partir dans des peurs vraiment extrêmes. Et là, les filles commencent à empâtir un peu de tout ça. Donc, il faut être plus réactif, quoi, pour moi. Donc, je m'énerve un petit peu. Et une fois que j'ai la péridurale, je souffle quand même. Et je demande à ce qu'on me déclenche une césarienne, en fait, parce que toutes ces heures qui ont passé, ça m'a épuisée et j'aurais pas la force de sortir de bébé. Pour moi, c'était impensable. Je pouvais même pas pousser. Je pouvais pas. J'aurais pas eu la force, en fait. Et du coup, ils appellent le docteur. Et le docteur dit que oui, qu'en fait, il faut passer en césarienne d'urgence parce que les filles commencent à souffrir et que moi aussi, et que ça y est, c'est le moment, quoi. Mmh. Je suis dilatée à deux depuis midi, il est minuit. Voilà. Il n'y a plus grand chose à faire, en fait. Et donc, je passe en césarienne d'urgence et il est 1h du matin et 1h05, Rose est née, 1h07, Jade est née. Et moi, je suis pas bien parce que j'ai eu de la morphine, j'ai eu plein de choses, donc je vomis, donc je profite pas trop et on me montre pas Jade. On me montre Rose, on me montre pas Jade, on me dit qu'elle est en insuffisance respiratoire et ben qu'il faut l'amener en soins intensifs et en néonat. Donc du coup, je vois pas Jade, je la vois à peine, en fait. Je la vois quelques heures après par photo, puisque Clément les avait pris en photo quand il les prépare, quand ils naissent. Et moi, je fais une hémorragie.
Histoire de finir voilà. En beauté.
Je fais une hémorragie, donc bon, je me rappelle plus trop. Je me rappelle plus trop, mais ils m'ont gardé jusqu'au lendemain, début d'après-midi, avec eux. Donc c'est Clément qui s'est occupé de Rose en chambre. Je les ai pas vus. Et Jade était en réanimation, en fait. Elle allait bien, mais elle était en réa et il fallait qu'elle reste là-bas. Donc on me garde toute la nuit, on m'appuie sur le ventre pour tout sortir. Bref, un peu toutes les heures. Et je remonte en chambre que le lendemain vers midi. Voilà, où j'ai pu voir Rose. Ça a été un débordement d'émotions immense. Ouais. Et je pouvais pas voir Jade parce que je pouvais pas me lever. Je suis restée à 18-19 de tension pendant 3 semaines. Donc je suis restée hospitalisée pendant 3 semaines encore.
Ah oui.
Pendant que Jade était hospitalisée aussi, donc finalement on était tous ensemble. Donc c'était très bien pour moi. Et j'ai vu Jade 2 jours après. J'ai réussi à, ben, en fauteuil roulant, en fait, on m'a amenée. Et pareil, débordement d'émotions et une barrière, en fait, qui s'est créée parce que j'ai eu peur de la perdre. Mm. Donc j'y arrivais, j'avais très, 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 très peur. Donc j'ai découvert une autre émotion encore où j'arrivais pas à m'attacher. Mm. Je me protégeais, en fait. J'avais très très peur et bon, naturellement ça s'est enlevé, hein. C'était ma fille et je me suis trouvé une force encore différente, parce que déjà quand on est en PMA et qu'on fait beaucoup de fausses couches, on se trouve une force énorme, on se découvre autrement. Mais alors là, ça a été je me suis dit, mais en fait il peut tout m'arriver, je serai là et je serai debout et je serai là pour mes filles. Je pense que c'est ce qu'on se découvre quand on devient maman. Mais là, encore plus parce que Jade était malade. On a découvert après qu'elle avait une maladie génétique, hein, quelques jours après.
Okay.
Elle est née avec une maladie génétique. Et donc, du coup, là, ça a été un autre combat. Et j'ai pas vu le temps passer. Ça a été... tout s'est enchaîné. J'ai quelques souvenirs, mais j'ai les jambes qui tremblent, ça, et c'est compliqué.
Oui.
Ça a été encore une nouvelle aventure qui commençait, voilà.
Comment tu l'as vécu, ça, qu'une de tes filles ait une maladie génétique, sachant que ça venait d'un don?
Je l'ai vécu comme une injustice, encore une fois. Je comprenais pas, en fait, pourquoi tout ça tombait sur nous, en fait. Pour moi, c'était impensable, en fait. Elles allaient naître, elles étaient en bonne santé, et puis voilà, on était parents enfin. Mais non, je sais pas comment te le décrire, parce que j'arrive pas encore à mettre des mots dessus. Je suis en colère, en fait. Je suis en colère, j'ai accepté, hein, parce que bon, maintenant elles ont 2 ans et demi, et que je me suis familiarisée avec toute la maladie de Jade, et qu'elle est bien suivie, et qu'elle a un stade de sa maladie, en fait, qui n'est pas très évolué. Voilà.
C'est quoi comme maladie qu'elle a?
Alors, ça s'appelle l'incontinentia pigmenti. Ça touche la peau. Elle a une dépigmentation de la peau. La dermatologue de l'hôpital était assez jeune et elle connaissait cette maladie, qui est quand même assez rare. Hein. On a eu de la chance. Ils ont cru à de l'herpès. En fait, quand elle est née, elle a eu plein de petites pustules linéaires partout, sur les jambes, sur les bras, sur la poitrine. Et donc, je refais l'histoire, mais le jour où on était censé sortir, donc 3 semaines après, ils viennent à 3 dans la chambre, donc j'attendais Clément. J'étais prête, je m'étais maquillée, habillée, ça y est, j'allais rencontrer la famille, montrer mes enfants. C'était le plus beau jour de ma vie, en fait.
Ouais.
Et là, elles viennent à 3 dans ma chambre et je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce jour-là qu'on a su qu'elle avait peut-être une maladie. Et on me dit, Jade doit rester, elle ne sortira pas aujourd'hui. On a peur qu'elle ait de l'herpès. Et l'herpès, c'est mortel pour un bébé. Donc, on la remet en soins intensifs, en réa. Voilà. Donc là, j'appelle mon mari, je lui dis, écoute, gare-toi, mais ne sors pas les affaires. On repart qu'avec Rose. Alors, ça a été une horreur. Mmh. Et la dermato me dit, j'ai un doute, j'ai une suspicion sur une maladie génétique qui y ressemble fortement. J'aimerais faire une biopsie sur sa peau. Donc, je lui dis que oui. Et elle me dit, on commence immédiatement le traitement sur l'herpès parce que ben, c'est mortel. Donc, oui. On commence immédiatement. Si c'est pas ça, tant mieux, tant pis, quoi. Elle aura eu le traitement, mais on aura prévenu. Et donc, quelques jours après, donc 2 jours après, on reçoit le résultat positif de la maladie. C'est là qu'on nous a annoncé que Jade était malade.
Est-ce qu'ils font des recherches, du coup, sur la donneuse et sa génétique ou sur ton mari
Alors, sur mon mari, il faut savoir que cette maladie touche essentiellement les filles.
Okay.
Sur un fœtus masculin, c'est fausse couche, enfin, c'est létal, en fait. L'embryon ne tient pas. Donc, ça aurait été un garçon, ça n'aurait pas tenu. Et là, c'était une petite fille et ça a tenu. Et du coup, on me dit que c'est soit génétique, mais c'est compliqué parce que c'est un don d'ovocyte et que c'est anonyme et que ça va être très compliqué. Soit c'est le chromosome X qui a eu un souci pendant la grossesse et c'est la faute à pas de chance. Voilà.
Okay.
Donc, encore aujourd'hui, donc elles ont 27 mois, j'ai pas les résultats génétiques qui ont été faits à Paris. J'attends encore, donc je sais pas du tout.
D'accord.
Je sais pas. Par contre, il a fallu prendre en charge sa maladie rapidement parce que ça touche le système nerveux central, ça touche les yeux, il y a risque de décollement de rétine, risque d'AVC et d'épilepsie. Et à ce que je sais, parce que je ne suis pas non plus une experte dans cette maladie, mais ça se passe en fait la première année du bébé, ou in utero, ou la première année du bébé, il y a un risque d'AVC. Donc, on a fait un IRM cérébral. Il n'y avait pas de signe d'AVC sur Jade. Donc, c'était bon signe. Et donc, du coup, ça n'est passé la première année sans signe d'AVC. Et on a pu souffler un petit peu parce que ça n'arrive pas après, logiquement. Donc, on souffle là parce qu'on se dit que, elle n'est pas touchée. Elle n'est pas énormément touchée. Elle a été touchée pas mal aux yeux. Jusqu'à ses 6 mois, on a cru qu'elle était aveugle. Elle n'avait aucun suivi oculaire. Puis en plus, on comparait avec sa sœur, donc c'était compliqué.
Ouais.
Montpellier nous avait dit qu'elle était aveugle. Donc on a pris rendez-vous à Paris, à l'hôpital Necker. Et en fait, pour eux, c'était un retard. Et c'est ce retard qu'elle a encore aujourd'hui, parce qu'elle a un retard d'à peu près 1 an sur tout ce qu'elle fait.
D'accord.
Mais aujourd'hui, elle y voit bien. Elle a des lunettes, elle a tout ce qui est mis en place. Et voilà, aujourd'hui, elle a un retard moteur. Elle marche depuis pas longtemps, donc c'est génial. Et avec sa sœur, elles ont beaucoup de différences. Voilà. Mais elle va bien.
Ouais. C'est un suivi hebdomadaire, c'est beaucoup de temps de...
Elle est suivie au CAMS, du coup. Elle est suivie... Ouais, c'est beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de suivi, beaucoup de rendez-vous. Elle est suivie par beaucoup de spécialistes. Elle est suivie... Nous, on habite Perpignan. Elle est suivie à Toulouse pour ses yeux. Elle est suivie à Paris tous les ans pour le bilan global. Elle était suivie à Montpellier au départ. Donc, On a fait beaucoup, beaucoup d'hôpitaux. Et là, elle est suivie au CAMS, donc du coup, toutes les semaines. Elle est suivie pour l'orthoptiste, elle est suivie pour la psychomote, elle est suivie avec une éduc spécialisée et un psy aussi. Et elle a fait de la kiné. Et voilà, là, elles sont en MAM et elle évolue vachement et ouais. C'est génial.
Et toi, tu bosses dans tout ça ou comment ça se passe ?
Non. Alors non, j'ai dû arrêter de bosser et j'ai dû prolonger mon congé parental pour m'occuper des deux déjà, parce que quand il y en a deux, c'est compliqué. Et encore plus quand il y en a une qui est malade. Donc j'ai des aides, j'ai droit à l'allocation journalière de présence parentale pour enfants malades. Et du coup, je suis à la maison et je gère Jade. Elles ont été quand même très tard à la crèche, donc je les ai gérées ouais. à la maison.
Et alors, comment ça s'est passé pour toi, ce rôle de maman en plus de deux que tu attendais tant ? Est-ce que tu as tout de suite trouvé tes marques ou ça a pris un petit peu de temps ?
Alors, j'ai de suite trouvé mes marques parce qu'on est quand même resté 3 semaines à l'hôpital. Et on a eu des infirmières géniales, des puéricultrices géniales, avec qui on a contact encore. Et on va leur faire un coucou à chaque fois qu'on a des rendez-vous à l'hôpital. Et donc du coup, j'ai eu beaucoup d'aide. Et ça y est, j'étais une experte quand je suis sortie. Je gérais mes filles parfaitement. Mais ça a été compliqué quand même de gérer deux bébés.
Ouais. Tu les as allaitées ou pas?
Non, pas du tout. Non, parce qu'en plus, j'ai eu la pré-éclampsie, donc beaucoup de traitements pour la tension, tout ça. Donc, c'était...
Ah oui, c'était pas envisageable de toute façon.
Voilà, c'était pas envisageable, ouais. Mais c'était quelque chose qui me... Enfin, je ne l'aurais pas fait parce que c'était... Ça me paraissait trop compliqué pour deux bébés.
Ouais. Et comment t'as géré alors des twins?
C'est compliqué parce que quand t'as voulu être maman autant d'années... Et que tu es maman de jumelles, en l'occurrence, t'as pas ce lien privilégié avec un seul enfant.
Ouais.
Je sais pas comment t'expliquer, mais t'es obligée, en fait, de te partager et tu peux pas avoir ces moments privilégiés avec l'un et l'autre parce que tu dois toujours avoir une main sur une et avoir l'autre sur toi. Et ça m'a un peu frustrée parce que je découvrais le rôle de maman autrement, en fait. Il fallait que je me partage immédiatement et j'ai pas vécu ce rôle de maman fusionnel avec... Si, ça a été fusionnel avec mes filles, mais exclusif, en fait.
Ouais.
C'était un tout autre rôle que celui que j'avais imaginé.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité?
Ça a changé toute ma vie. Ça a changé... Le problème, c'est que ça a changé et notre façon de vivre, parce que déjà, quand t'accueilles un enfant, c'est un chamboulement. Alors deux, c'est un tsunami. Et en plus, avec la maladie de Jade, il y a tout qui change, en fait, que ce soit toi, que ce soit ta vie, que ce soit ton entourage, c'est une nouvelle vie, en fait. J'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup appris de tout ce que j'ai vécu, en fait.
Ouais. Et alors, par rapport à ce don d'ovocytes que tu redoutais au départ,
ouais.
Comment tu disais, de toute façon, dès la grossesse...
Ouais, je le souhaite à toutes les mamans qui doivent passer par là, en fait.
Ouais.
Et j'insiste, et c'est pour ça que je partage beaucoup sur mes filles. Il y a encore beaucoup de mamans qui sont dans le déni ou qui ont peur. Et les seuls mots que j'ai à leur dire et que je leur dis régulièrement... Quand on échange, c'est fonce parce que tu oublieras, en fait. C'est tes enfants, moi, mes enfants, je sais pas comment le décrire, en fait. C'est ma vie toute entière. Il faut foncer parce que si j'avais, tu vois, si on m'avait pas dit fonce, je pense à Laetitia, si on m'avait pas dit fonce, je l'aurais pas fait et j'aurais peut-être regretté toute ma vie, je pense.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ouais.
C'est quoi pour toi être une maman perpignanaise ?
Être une maman perpignanaise, bon, alors nous, on s'est éloigné un peu de Perpignan. On est plutôt dans la campagne maintenant. On est à 40 minutes de Perpignan. On est vers Prades, dans un petit village. Et on est très casanier. Et on est des parents, on a envie que nos enfants grandissent dans la nature et on est des parents assez ouverts, quoi.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Perpignan?
Bon, en fait, je dirais c'est ma maison. On a 6500 m² de terrain.
Ah, wow.
Et, ouais. Et même juste là, on est hyper bien, quoi. Donc, ce serait ça mon endroit préféré.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ce prévu en famille?
On n'a pas vraiment de projet, on vit encore au jour le jour, aujourd'hui. Moi, ce serait de reprendre le travail et de me réépanouir, je dirais, parce que c'est quand même très difficile de rester à la maison et d'être maman à temps plein. C'est très, 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 très dur, surtout quand t'en as deux d'affilée. Et moi, pour moi, mon projet, c'est de me redécouvrir, en fait, de revivre un petit peu pour moi. Et en famille, on a pour projet de partir un peu à l'aventure. On a pour projet de faire du bivouac, de partir dans la nature un petit peu partout, de découvrir de beaux endroits et de faire grandir les filles avec ces valeurs-là, en fait. C'est notre prochain projet. On va faire découvrir un petit peu ça aussi à ma communauté sur Instagram et on va partir à l'aventure.
Merci beaucoup, Virginie.
Avec plaisir. Merci à toi.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite !